Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
À Berlin, à Tempelhof, il y a aujourd'hui un parc gigantesque à la place de l'aéroport qui, en 2008, a définitivement fermé ses portes aux voyageurs et ses pistes aux avions après bien des débats, des affrontements politiques et un référendum. Créé en 1923, il était le plus ancien aéroport au monde. Il était surtout un important symbole pour plusieurs générations de Berlinois de l'Ouest depuis la fin de la Deuxième Guerre. Durant le blocus terrestre imposé par les Soviétiques entre 1948 et 1949, il avait été la tête du pont aérien pour le ravitaillement assuré par les Alliés, la condition de leur survie et de leur liberté. En 2008, dans le deuxième d'une série en 4 épisodes sur Berlin, la Fabrique de l'Histoire faisait revivre, en interrogeant la mémoire des Berlinois, ce qu'avait été Tempelhof à la chute de l'Allemagne nazie et durant la guerre froide. Tempelhof, où en 2015, des hangars désaffectés ont vu arriver leurs premiers réfugiés de Syrie et d'ailleurs. Histoire de Berlin, fermeture de l'aéroport de Tempelhof, la fin d'un symbole, un documentaire de Dominique Treilloux et Marie-Christine Closet pour la Fabrique de l'Histoire.
Dernier tour de piste pour l'aéroport de Tempelhof.
Monsieur le ministre Speer, monsieur le secrétaire d'État Ludke Dahlgrupp, monsieur Schwarz, mesdames et messieurs. Nous avons bien senti, et particulièrement aujourd'hui, pour ce dernier jour de fonctionnement de Tempelhof, que les émotions sont très présentes. Et je pense qu'il faut respecter cela. De nombreux Berlinoises et Berlinois, mais aussi beaucoup de personnes du monde entier, ont une relation affective avec l'aéroport de Tempelhof. Certains parlent de lui comme de la mer, de tous les aéroports, et beaucoup d'événements historiques sont liés à ce lieu. L'histoire de l'aviation a commencé ici, mais pas seulement. Cet aéroport n'a pas été toujours utilisé à des fins pacifiques et a fait partie du système de la dictature nazie. Il ne faut pas oublier, bien sûr, la période où l'aéroport garantissait la survie des Berlinoises et des Berlinois de l'Ouest et était pour la population de l'Est l'espoir d'une vie future, meilleure et commune avec l'Ouest. Mais il faut aujourd'hui regarder vers l'avant. Et je pense qu'il est raisonnable de suspendre le trafic aérien. Les gens ont eu de la chance. Les gens ont eu de la chance qu'il n'y ait pas eu d'accident. Un aéroport en plein centre de la ville appartient, de mon point de vue, automatiquement et nécessairement au passé. Je vous souhaite une bonne soirée.
Berlin, jeudi 30 octobre 2008, dans l'immense hall de l'aéroport de Tempelhof, situé à quelques minutes de la porte de Brandenburg. Klaus Wowereit, le maire social-démocrate, vient de prononcer un discours pour la fermeture définitive de l'aéroport. Cette décision, ce sont ses adversaires politiques de la démocratie chrétienne qui l'ont prise en 1996 pour permettre la construction d'un seul et unique aéroport à Schönefeld, au sud de Berlin. Cette fermeture a suscité beaucoup d'émoi et ce soir-là, le maire n'a pas la tâche facile. Tempelhof n'est pas un banal aéroport qu'on ferme pour raison de sécurité. Bien sûr, il faut parler de son défaut de naissance. L'édifice a été construit dans les années 30 et devait prendre une place centrale dans les plans de Germania, la capitale de l'Europe nazie. Mais grâce à son rôle pendant le blocus et le pont aérien de 1948, Tempelhof est devenu le symbole de la résistance des Berlinois et des Alliés aux volontés expansionnistes des Soviétiques en Europe. Depuis plus d'un an, un mouvement bien organisé de citoyens a remué ciel et terre pour faire revenir le Sénat sur la fermeture de Tempelhof en 2008. Cette mobilisation, vite récupérée par les partis politiques, a abouti à l'organisation d'un référendum sur le sort de Tempelhof le 27 avril 2008.
On a voté pour le non.
Frankfurter Allee,
tu es vraiment bête.
Parti Est de Berlin, un couple d'anciens citoyens de la RDA.
On a voté non.
On a voté non au maintien de l'aéroport, car nous sommes contre la CDU, qui a défendu ça uniquement pour les riches et les hommes d'affaires, pas pour le peuple. Ça a été tellement politisé que ça s'est transformé en élection. Mais c'est une élection, bien sûr. Le Sénat de Berlin en a décidé ainsi et doit conserver ses droits. Nous voulons soutenir le maire de Berlin, car il dirige très bien la ville, et nous souhaitons qu'il reste maire. Pour nous, Tempelhof n'a pas de signification particulière, et la vie continue, évolue et devient plus moderne. Un grand aéroport, c'est indispensable pour une ville comme Berlin. Il ne peut pas y avoir autant d'aéroports dans la ville. C'est comme ça.
Je sais pas, je suis pas intéressé par ce genre de coucou, ils sont trop petits pour moi. D'après moi, c'est un Diamond Cataner. On a voté oui, pour que Tempelhof reste en fonctionnement, au moins jusqu'en 2011, quand le BBI sera ouvert. Tempelhof est très pratique pour les jets d'affaires, et si Tegel et Tempelhof ferment, ils ne pourront plus atterrir, car à Schönfeld, ils seront trop petits. C'est pour ça que je suis pour le maintien de Tempelhof. En tout, il y a 120 vols par jour à Tempelhof. Nous, on vient ici pour prendre des photos d'avions qui décollent et atterrissent.
Et vous venez souvent ici ?
Oui, une ou deux fois par semaine. Moi aussi, je viens quand, par exemple, il y a des Boeing 737 qui volent par ici.
C'est une Robin DR400.
Pardon, sergeant, what have you loaded on your ship today?
Salmon.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Berlin, occupé par les quatre puissances alliées, devient le théâtre principal de la guerre froide. Les relations entre les soviétiques et les occidentaux s'enveniment très rapidement. Le 24 juin 1948, Staline décrète le blocus terrestre, ferroviaire et fluvial de la partie ouest de Berlin, enclavée dans la zone de l'Allemagne occupée par les soviétiques. Les Américains répliquent en organisant le pont aérien à partir de Tempelhof pour ravitailler Berlin-Ouest. En ce mois de novembre 2008, les héros américains venus célébrer le 60e anniversaire sur le tarmac sont repartis. Les avions ne survolent plus les pistes et le silence a envahi l'espace aérien. Place à la parole des témoins anonymes, jeunes adultes ou enfants en 1945. Ils retracent une époque où la vie à Berlin était très proche de celle décrite par Roberto Rossellini dans Allemagne année zéro. Gerhard Bürger, 80 ans, a des souvenirs aussi vifs que son regard.
J'ai vécu la fin de la guerre à Berlin, j'avais 15 ans. J'arrivais de Tchécoslovaquie et je pouvais un peu parler le tchèque, qui est proche du russe. Et donc j'arrivais à entrer en contact avec les Russes. Ça a été très précieux à l'arrivée de l'armée rouge, qui pouvait être très brutale, mais qui comptait aussi de très bons soldats. Moi, je pouvais faire le lien, ce qui a permis à mes proches et aux personnes qui étaient autour de moi dans l'immeuble de vivre la fin de la guerre de façon relativement calme. J'habitais chez mes parents tout près de l'aéroport de Tempelhof et la première année, les conditions de vie étaient très dures. L'hiver 45-46 fut rude. Les matériaux pour se chauffer, charbon et bois, manquaient cruellement. Chaque branche des arbres du Tiergarten, le grand parc de verdure près de la porte de Brandenburg, a été scié et ramassé par les gens qui avaient froid. Et les policiers rouspétaient, mais ne pouvaient pas faire grand-chose. Il n'y eut bientôt plus un seul arbre. La situation était extrême et chacun devait s'organiser pour arriver à s'en sortir.
Karl Behrendt habitait à Zehlendorf, quartier chic de la zone américaine.
Meine Lebenssituation war, ich war, als die russischen Truppen nach Berlin kamen, da war ich zu Hause. Ich hatte vorher eine Verletzung erlitten bei einem Luftangriff. Ich war im Volkssturm,
d'après-guerre, quand les troupes russes sont arrivées, j'étais à la maison, j'ai été blessé.
Und sollte mit der Panzerfaust russische Panzer abschießen und glücklicherweise.
En fait, j'étais dans une milice et je devais en fait tirer sur les Panzer russes qui étaient arrivés à Berlin.
Ja, meine erste Erinnerung waren.
Et par chance, j'ai été blessé.
Russische Soldaten in unserem Haus.
Mein premier Souvenir, c'est quand les soldats russes sont rentrés dans nos maisons. Les femmes ont été violées, la situation était horrible.
Bombenangriffe und das Haus war halb kaputt.
Il y avait les bombes, toutes les maisons étaient détruites. Mais en même temps, il y avait sentiment de liberté parce que c'était la fin de la guerre et on était enfin libérés des nazis.
Also wir waren froh, dass die Nazis weg waren.
Georg Geigel est né dans les Sudètes, en Tchécoslovaquie, région qu'Hitler avait annexée en 1939. En mai 1945, tous les Allemands en ont été expulsés et sa famille a rejoint Berlin à pied en 6 semaines pour se réfugier chez des parents qui vivaient dans la zone soviétique.
Also unser Gefühl war eben damals so, eine Welt brach völlig zusammen, Deutschland war völlig zerstört, völlig am Boden, wir alle waren am Boden. Und wir hatten nur die Hoffnung, unser Leben zu retten.
Notre sentiment, c'était que l'Allemagne s'était complètement effondrée, tout était foutu, et le seul souci que nous avions, c'était de sauver notre vie.
Ja, mein Vater war nicht gesund, der hatte auf die Flucht mit Not und Mühe überstanden.
Mon père était malade, il avait tout juste survécu cette fuite.
Meine Mutter war sehr aktiv und versuchte also irgendwo Essen zu besorgen.
Ma mère était très active, elle a fait des efforts pour trouver aber de la nourriture.
Aber es war so, nicht, dass wir also auch alles, was man essen konnte, versucht haben zu bekommen. Ich habe dann meinen 7. Geburtstag gefeiert, gleich nachdem wir angekommen waren.
On a essayé de trouver tout ce qui était mangeable et c'était juste le moment où je fêtais mon 7e anniversaire, juste après cette arrivée à Berlin.
Und ich erinnere mich noch sehr genau, dass mein Geburtstagsgeschenk war ein halbes Brot.
Ich me souviens très bien que le cadeau d'anniversaire c'était un demi-pain.
Und eine Schüssel Johannisbeeren.
Et une petite soucoupe avec des cassis.
Ja, und dann, das war schon etwas ganz Luxuriöses und sich einmal satt zu essen war also ein ganz großer Traum.
C'était vraiment un luxe et manger à sa faim une fois, c'était un rêve.
22 Uhr, Berlin-Tempelhof.
Die amerikanischen und britischen Luftbrückenmaschinen starteten gestern Vormittag zu einem neuen Rekordversuch für die 24-Stunden-Periode. Von gestern Mittag 11 Uhr bis heute Mittag.
Die Russen haben ja dann alle Betriebe, Firmen.
Les Russes, en arrivant, ont vidé les entreprises pour envoyer tout le matériel en Russie.
Kunstschätze und so weiter. Und dafür wurden die deutschen Arbeitskräfte gebraucht.
De grandes entreprises comme Siemens, mais aussi des petites, toutes y sont passées. Et pour ce travail, ils ont eu besoin des mains de travailleurs allemands. Ça a duré jusqu'en juin 45, jusqu'à l'arrivée des Américains à Berlin. En juillet, la partie sud-ouest est passée dans le secteur américain, et tout d'un coup, les Russes sont partis, et les Américains étaient là.
Comment vous avez remarqué que les Russes allaient partir et que les Américains arrivaient ?
Also, ich kann mich ganz genau daran erinnern, wir waren gerade dabei.
Je m'en souviens très bien, nous étions à un étage inférieur du bâtiment de Tempelhof en train de charger des plaques d'aluminium pour la construction des avions sur les camions des soldats russes. Et tout d'un coup, des mégots de cigarettes nous sont tombés dessus. On s'est regardé et on a vu les Américains qui se trouvaient plus haut. Et à ce moment précis, tous les Allemands ont déguerpi. Les Russes se sont retrouvés tout seuls. Le jour d'après, on s'est présenté à Tempelhof et les Américains étaient déjà là. Ils nous ont placés en rang, tchac-tchac, comme dans l'armée allemande, et tous les travailleurs manuels ont été recrutés pour la remise en service de l'aéroport. La première année a été un peu dure avec eux. Et puis un jour, un soldat américain est venu me voir et m'a demandé « Est-ce que tu voudrais devenir pompier ?» Bien sûr que j'en avais envie. Et tout a bien marché car je connaissais aussi l'anglais. Et je suis alors devenu pompier à Tempelhof.
Die Liebe in alter Zeit. Ein junger Mann nahm sich eine Maid vom Donaustrand, von der Spree und vom Rhein.
Edgar Reuter est le fils d'Ernst Reuter, dont le nom est intimement lié à l'histoire du blocus de Berlin. Conseiller municipal social-démocrate pour les transports dans les années 20, exilé pendant 11 ans en Turquie sous la dictature nazie, il rentre à Berlin en 1946. Ernst Reuter est persuadé que les soviétiques chercheront à imposer leur pouvoir sur toute l'Allemagne et sur l'Europe. Il les connaît bien pour avoir été communiste convaincu et proche de Lénine avant d'être exclu du parti en 1921. Lorsque les soviétiques imposent la fusion des partis socialistes et communistes dans la zone est de Berlin, ils se préparent à l'inévitable affrontement. Edgar Reuter avait 20 ans en 1945.
En 1947, les soviétiques, les autorités soviétiques refusent l'élection d'Ernst Reuter à la mairie de Berlin. Quelle a été sa première réaction ?
Diese Reaktion der sowjetischen Seite war absolut erwartet.
Ce conflit n'était pas du tout inattendu, c'était un conflit annoncé. Les soviétiques avaient fait comprendre qu'ils n'accepteraient pas que Ernst Reuter soit élu. Et puis, évidemment, c'est ce qu'ils ont fait, mais ça montrait aussi que les conflits étaient déjà pleinement en cours à cette époque et que ce refus était un synonyme de ce qui se passait et ce qui allait venir.
À la déclaration du blocus de Berlin par les autorités soviétiques, à la fin du mois de juin 1948, quelle analyse faisait-il des rapports de force ?
Es gab keine Alternative. Es gab nicht die Alternative.
Il n'y avait pas d'alternative. On ne pouvait pas céder et abandonner la situation soviétique. Il était clair qu'il fallait résister.
Kein Mensch konnte zu Anfang.
Mais au début, évidemment, on ne pouvait pas savoir si ce pont aérien réussirait à fournir le nécessaire à la population et si on pouvait maintenir une situation de vie pour cette ville.
Das konnte keiner genau wissen.
Maybe a city of physical ruin.
General Lucius Clay.
But out of the airlift, there has certainly come the spiritual and moral foundation on which the physical reconstruction of Berlin will be an easy task.
Est-ce que votre père a eu une influence sur la décision des Américains d'organiser ce pont aérien et donc de rester dans Berlin?
Je pense qu'on peut sans équivoque affirmer que c'est le cas. Et il y a des preuves historiques qui montrent, par exemple, qu'il y a eu un entretien entre le général Clay, le plénipotentiaire américain, et mon père.
Et
Clay a demandé à mon père s'il pouvait confirmer que la population de Berlin-Ouest était prête à porter les sacrifices et à résister et à accepter la situation.
Herr General, sorgen Sie dafür.
Et la réponse de mon père, c'était, mon général, faites le nécessaire de votre côté pour que l'alimentation et la survie des Berlinoises et des Berlinois soient garanties. Moi, je garantis de ma part que la population de Berlin-Ouest va assumer ce qui est nécessaire pour garantir sa liberté. Ce n'est qu'après cet entretien que le général Clay a pu s'adresser à l'administration américaine, au président américain, et que ce mot a pesé pour qu'il y ait une décision en faveur du pont aérien, parce qu'il y avait aussi pas mal de courants aux États-Unis qui n'étaient pas en faveur de ce pont, et ça a été un moment où la décision n'était pas claire.
Ingrid Salzwedel a passé son enfance à Tempelhof dans les années 40. La voix grave, le verbe berlinois impertinent et plein d'humour, elle passe de longues après-midi au café Romy, siège de la résistance pour la sauvegarde de l'aéroport, situé en face de l'imposant édifice.
Tout d'abord, Tempelhof, c'est des sons pour moi. C'est des sons tout à fait différents qui étaient audibles pendant la guerre et pendant le pont aérien. Je ne sais pas si c'est objectivement vrai, mais pour moi, c'est des sons tout à fait différents. Et quand nous étions postés devant la gueule de Goebbels, c'est la radio qu'on l'a surnommée pendant la guerre pour être averti des raids aériens. Donc on a eu la consigne à Hanovre, Braunschweig, donc c'est de là que venaient les avions de ravitaillement. C'était tout un autre sentiment. Donc avant, on avait peur quand les bombardiers nous survolaient, et cette fois-ci, on savait que c'était tout à fait autre chose.
Est-ce que vous aviez le sentiment, vous, Gerhard Burger, en tant que Berlinois, d'être contraint de choisir votre camp ?
Il faut bien se représenter la situation. La population allemande qui vivait dans les trois secteurs alliés, américains, britanniques et français, n'avait qu'une hantise, la peur des Russes. Donc pour choisir son camp, c'était absolument clair, tout sauf les Russes. On était tellement heureux d'habiter dans les secteurs des alliés occidentaux. Et quand l'affrontement avec les Soviétiques est devenu de plus en plus dur jusqu'au blocus de Berlin, là on s'est dit, mais qu'est-ce que les alliés vont faire maintenant ? Nous avons reçu la proposition du secteur Est de se ravitailler chez eux, chez les Russes, mais très peu de gens ont accepté cela. Et à ce moment-là, mes amis américains, les soldats, n'en savaient pas plus.
Georg Geigal, enfant pendant le blocus, habitait en zone soviétique.
Mais moi, avec mon horizon d'un garçon de 10 ans, on était un pays occupé. Les alliés dictaient ce qui se faisait politiquement.
Et man merkte dann, dass es also Konflikte gab zwischen den Alliierten.
On a senti qu'il y avait des conflits entre les alliés.
Und Interessen vertreten wurden auf beiden Seiten.
Et qu'il y avait des intérêts divergents des différents côtés.
Und als es dann eines Tages zu dieser Blockade kam, haben wir das nicht als sehr wesentlich empfunden.
Et le jour où il y a eu ce blocus, on l'a pas éprouvé comme quelque chose d'essentiel.
Das war bei den Leuten, die im Westsektor von Berlin lebten, etwas anders.
C'est évidemment différent pour ceux qui vivaient dans les secteurs occidentaux de Berlin.
Der Hintergedanke war uns natürlich noch nicht so richtig klar.
Évidemment, on comprenait pas les arrière-pensées.
Aber Menschen mit mehr Überblick war es schon klar, der ideologische Anspruch war der, die ganze Welt kommunistisch zu machen.
Mais des gens qui voyaient plus loin avaient compris que c'était la prétention d'avoir un jour un monde communiste.
Und das war eine Sache, die, die man im Westen anders sah.
Et évidemment, à l'Ouest, on voyait les choses d'une autre façon.
Un air qui vient chez nous et qui vole n'importe où.
Gerhard Burger.
Un air qu'on chante un peu.
Und dann kam plötzlich Landung der Maschine.
Et puis des avions ont commencé à atterrir et à décharger du charbon et des produits pour les soldats américains. Et au bout de 3-4 jours, ils ont reposé leurs baluchons. C'était le commencement du pont aérien.
Le musée des Alliés se situe avenue Lucius Clay, en face du consulat américain. C'est le petit Washington de Berlin, situé dans le quartier très chic et excentré de Zehlendorf. En 1998, 4 ans après le départ des Alliés, ce musée a été créé pour rendre hommage à ces soldats d'occupation, si bien acceptés par la population berlinoise. Installé dans un ancien cinéma, où les soldats venaient se divertir, ce musée propose une exposition permanente qui vient rappeler aux visiteurs les premiers temps difficiles dans un Berlin à dénazifier. Puis, le pont aérien et ses héros inaugurent une nouvelle période de la présence des Alliés. Dehors, un bout du mur fait face à un ancien mirador. Cette année du soixantenaire du pont aérien a été l'occasion d'une exposition temporaire intitulée Making of, une galerie de portraits des héros connus et anonymes dans le décor de l'aéroport de Tempelhof. Uta Birkemeyer travaille en tant qu'historienne dans ce musée. Elle en connaît tous les objets et leur histoire et nous a accompagnés dans la visite de l'exposition.
Il y a eu un accord en 1945 et c'était le seul accord sur les voies d'accès vers Berlin entre les quatre alliés. Pour des raisons de sécurité, en fait, ils étaient obligés de trouver un accord concernant donc les voies aériennes. On a fixé trois couloirs larges de 32 km qui amenaient vers Berlin. Et donc après le blocus des voies terrestres, ferroviaires et fluviales vers Berlin par l'Union soviétique, les alliés ont décidé de, donc d'utiliser ces couloirs aériens pour alimenter Berlin. Donc en fait, les deux couloirs extérieurs, les Américains et les Britanniques les ont utilisés pour aller vers Berlin et le couloir au milieu était le couloir du retour. Dans ces couloirs, on voit sur ce schéma ici que les avions y volaient sur cinq niveaux différents, des fois avec des distances de 3 minutes. Et il y a des avions qui atterrissaient à Berlin toutes les 2 à 3 minutes.
En tout cas, ce n'était pas beaucoup, il fallait pas rater son atterrissage.
Non, mais en fait, effectivement, il ne fallait surtout pas rater son atterrissage. Ils avaient une seule possibilité d'atterrir. Si cela n'était pas possible pour différentes raisons, il fallait qu'ils partent immédiatement et qu'ils reprennent donc, le couloir au milieu pour retourner vers les différents aéroports en Allemagne de l'Ouest.
Karl Behrendt.
Ich darf Ihnen mal ein Beispiel geben. Die Lebensmittelration während der Blockade, also Lebensmittel transportiert durch alliierte Flugzeuge, betrug täglich 400 Gramm de pain, 60 Gramm de féculents, 50 Gramm de graisse, 30 Gramm de sucre, 40 Gramm de fromage, 400 Gramm de pommes de terre par personne, par jour.
Pro Mensch.
Eins und zwei und linkes Bein in die Höhe, rechtes Bein auf der Lampe und so weiter und Ellenbogen unterm Nachttisch und den Kopf und den Arm und rollen und wippen aufs Klavier, vor der Tür und ruff und runter und den Kopf in den Eimer, jetzt hier auf das Lampe.
Wir waren also vor Beginn der Luftbrücke.
Avant le début du pont aérien, nous étions une vingtaine de pompiers à l'aéroport. Et nous sommes passés à une centaine pendant le blocus. Nous avons organisé la sécurité de l'aéroport, qui était très grand. On avait placé sur les côtés des pistes un camion, au cas où. Il y avait une tour d'observation d'où nous contrôlions ce qui se passait. On ne s'arrêtait pas. Et puis, bien sûr, le trafic aérien, avec toutes ces machines qui atterrissaient et qui décollaient. Pour chaque avion qui partait, un pompier devait être prêt à intervenir sur les moteurs, qui, en se mettant en marche, dégageaient quelques gouttes de kérosène, ce qui aurait pu enflammer tout l'avion. Il y avait vraiment de quoi faire, mais c'était absolument passionnant.
Aber es war auch wahnsinnig interessant.
Die Geldsorte steht in Verkäufersbelieben.
Westmark.
Ostmark.
Doch kriegen Sie Kartoffeln und rote Rüben für Ostmark.
Vous aviez des contacts, Gergelyal, avec des habitants de la zone ouest de Berlin?
Ja, natürlich, ja, ja.
Oui, naturellement, beaucoup de contacts.
Ja, natürlich hatte man Kontakt, ja.
Erklären Sie, par exemple, est-ce que vous êtes allé à Tempelhof?
Das war eine große Attraktion, da kam ein Flugzeug nach dem anderen.
Évidemment, c'était une grande attraction, il y avait un avion après l'autre qui atterrissait, et c'était quelque chose de passionnant.
Ja, und was dahinter stand, das spürte man natürlich auch, wusste also jetzt, man wird im Westen im Winter nicht mehr heizen können, richtig?
Et on savait aussi ce qui était derrière. On se disait, ben, pendant l'hiver, ils pourront plus chauffer.
Also unsere Bekannten aus dem Westen kamen immer mit dem Rucksack zu uns.
Nos amis, les gens qu'on connaissait à l'Ouest, venaient chez nous avec un sac à dos.
Und sie fuhren immer mit dem Rucksack voll Holz nach dem Westen.
Ils rentraient à l'Ouest, le sac à dos rempli de bois.
Zum Beispiel, das war etwas, das gab es hier im Wald, nicht viel, aber es gab es.
Du bois, on en trouvait ici dans les forêts, pas en énorme quantité, mais on en trouvait.
Das war unsere Möglichkeit, ihnen dazu helfen.
C'était notre possibilité d'aider. Là, de ce point de vue-là, on était dans une meilleure situation qu'eux.
Und sie brachten dann uns auch etwas mit zu essen, was es bei uns nicht gab.
Also et essen war immer des choses à manger qu'on n'avait pas chez nous, c'était toujours encore un problème.
Georg, est-ce que vous avez reçu quelques sucreries de ces bombardiers de friandises?
Ja, Rosinen und Schokolade.
Oui, des raisins secs et de chocolat.
Natürlich über Freunde.
Ja. Évidemment, par l'intermédiaire des amis.
Ja. Also, wenn jemand von den Freunden aus dem Westen kam oder man besuchte Bekannte aus dem Westen, die hatten eben schon Schokolade.
Non, das mais quand wir nicht. Des copains venaient de l'Ouest ou quand on allait rendre visite à des gens qu'on connaissait, ben, ils avaient par exemple des chocolats.
Dafür hatten wir Kartoffeln und wir hatten Brennholz.
Mais nous, on avait des pommes de terre et du bois pour brûler.
Ja.
À l'Ouest, la mémoire des Berlinois de l'Est, et, enfin en tout cas la version officielle, ça serait plutôt on n'allait pas à l'Est, on se battait pour notre liberté et on ne voulait pas profiter de ce que les soviétiques nous offraient quasiment à profusion.
Ja, das ist die Frage, wie viel Held ist jeder. Ja.
C'est la question à quel point ja. On est héros ou pas, ja. Chacun.
Heldentum, man friert einen Tag, man friert eine Woche.
L'héroïsme, on a froid un jour, on a froid pendant une semaine.
Dann sagt man, ich muss ja nicht frieren. Ich habe meine Position, aber ich muss doch nicht frieren.
Et puis on se dit, pourquoi avoir froid? J'ai ma position, mais je peux quand même me débrouiller d'une autre façon.
Aber für uns war das eigentlich eine ganz spannende Geschichte.
Pour nous, c'était une histoire passionnante au fond.
If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola.
Ingrid Zelswedel, quel souvenir gardez-vous des premières relations, des premiers contacts avec les soldats américains à Berlin dans ces années 45-48?
Il y a un épisode qui est resté dans ma mémoire. On arrivait très bien à reconnaître les uniformes des soldats alliés. J'étais dans le tramway avec ma mère et il y avait un soldat américain que tout le tram fixait. En tant que gamine, je ne savais pas si c'était un bon ou un méchant. Mais peu à peu, un sentiment de sécurité s'est installé. Il a plongé la main dans sa poche pour me donner une grosse boule de Drubop, un bonbon aux fruits, énorme. J'ai mis mes deux mains derrière le dos, j'ai commencé à fixer, plein d'envie, ce bonbon, mais je n'y aurais touché pour rien au monde. Il m'a parlé, m'encourageant à le prendre, il m'a dit que c'était très bon. Je ne me souviens plus de tout ce qu'il m'a raconté. J'ai tourné les yeux vers ma mère, qui m'a dit que je pouvais prendre le bonbon. Une petite menotte de gamine s'est avancée vers lui, il a placé le bonbon dedans, et quand je l'ai mis dans ma bouche, je me suis dit que je ne pourrais plus respirer. Le bonbon était beaucoup trop gros pour ma bouche. En tant qu'enfant, on a une sensibilité fine au danger et à la peur, et ce type de geste a permis d'éloigner peu à peu ses peurs. Plus tard, j'ai ressenti pour l'aéroport de Tempelhof un sentiment d'une entière sécurité. Jeune fille, j'allais me promener à Tempelhof et je me sentais en sécurité. Quand je ne supportais plus le mur, par exemple, j'allais me réfugier à l'aéroport pour me sentir libre et en sécurité.
Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England,
peuple du monde, peuple en Amérique, en Angleterre, en France, en Italie, regardez cette ville et reconnaissez que vous ne devez pas, que vous ne pouvez pas lui donner un prix.
Es gibt nur eine Möglichkeit für uns alle.
Nous n'avons qu'une seule possibilité. C'est de rester unis jusqu'à ce que le combat soit gagné à travers la victoire contre l'ennemi, à travers la victoire contre la puissance des ténèbres. Le peuple de Berlin s'est exprimé. Nous avons rempli notre devoir et nous allons continuer de le faire. Peuple du monde, vous devez aussi remplir les vôtres.
Tut auch ihr eure Pflicht.
Ich muss sang. Natürlich habe ich es nicht verstanden, um was es ging, ja. Aber diese Atmosphäre, die ist einfach nicht zu beschreiben.
Bien sûr, je n'ai pas pu comprendre tout ce qui se passait ce jour-là. Mais l'atmosphère qui régnait, c'était indescriptible. Le sentiment que j'en garde, c'est celui d'être avec toute cette foule sur un bateau, au milieu de vagues immenses prêtes à déferler, et seul le bateau est un endroit sûr. Et c'est cet homme qui nous a donné du courage, qui nous a permis d'être courageux, et ces mots fameux, peuple du monde, regardez cette ville. Rien qu'en le disant, j'en ai les larmes aux yeux, je suis désolée. Tout le monde a senti que cet homme nous rassemblait en nous encourageant, qu'il était un peu comme un père qui tient ses enfants par la main. C'est le sentiment que j'ai eu ce jour-là.
Le 9 septembre 1948, à l'appel des sociodémocrates qui protestent contre les actes d'intimidation des militants de la SED, le nouveau parti socialiste unifié en zone soviétique, un grand rassemblement est organisé devant le Reichstag, à quelques mètres de la porte de Brandenburg. Cette manifestation a réuni des centaines de milliers de personnes et a été marquée par le discours d'Ernst Reuter, que la légende veut improviser. Son fils Edgar Reuter était présent.
Deswegen fand dann um die gleiche Zeit als diese Rede stattfand.
Et en même temps que mon père a tenu ce discours à Berlin-Ouest, il y avait à Moscou une conférence des ministres des Affaires étrangères des quatre puissances d'occupation qui s'était réunie justement pour discuter ce problème de la monnaie à introduire à Berlin-Ouest ou pas.
Dass man einen Kompromiss finden würde.
Et le danger existait qu'on se mette d'accord sur un compromis qui, à la fin, aurait menacé la liberté de Berlin-Ouest.
Deswegen war diese Formulierung dieser Rede meines Vaters.
Et c'est pour ça que ce discours de mon père s'adressait à la population mondiale, au fond, qu'il s'adressait au peuple des pays concernés en leur disant exercer une pression sur vos gouvernements pour qu'ils ne cèdent pas et pour qu'ils n'abandonnent pas cette ville.
Er sagte damals wirklich ganz pathetisch, und das weiß ich noch für heute, schaut auf diese Stadt.
Je me souviens de cette phrase pathétique, ja. Regardez cette ville.
Ja. Ernst Reuter war aus der Sicht des Ostens, nachdem er sich also gegen den Osten gestellt hatte, war er ein Kriegstreiber. Er war
évidemment, dans la perspective de l'Est, après s'être prononcé contre l'Est, c'était un meneur de guerre, quelqu'un qui incitait à la guerre.
Es war immer ein ganz, ganz schnelles Umschalten. Also wer kein Kommunist mehr sein wollte, war sofort ein Feind und Gegner. Und es stammt ja, es wurde.
Ça allait très vite. Celui qui ne voulait plus être communiste était très rapidement un ennemi.
Es war unvorstellbar, denn aus allen Richtungen kamen immer mehr Menschen und zum Schluss.
C'était une chose inimaginable, parce que de toute part venaient les gens, ils affluaient et à la fin on ne voyait plus qu'un océan de tête.
In diesen Tagen der höchsten Spannung, in der wir alle uns befanden,
évidemment dans ces jours d'immense tension,
erwartet, was wird jetzt dein Vater?
J'étais là et je me demandais, mais qu'est-ce que ton père va dire dans cette situation-là?
Und dann fing an zu sprechen und diese Rede kam Satz für Satz aus ihm heraus.
Il a commencé à parler et vraiment ce discours est sorti phrase par phrase de son effort intérieur.
Mir die Tränen runtergelaufen.
J'avoue volontairement qu'à la fin mes larmes coulaient.
Dann stieg natürlich rapide mit dem Frühling.
Et avec le printemps est venu aussi l'espoir et la certitude que les Russes arrêteront un jour ce blocus.
Mein Vater eines Tages zu Hause bei uns angedeutet hat, nicht expressis.
Et un jour, mon père a fait comprendre, il ne l'a pas dit expressément, mais il a fait comprendre qu'il y avait des entretiens entre l'ambassadeur américain Jessop et l'ambassadeur soviétique Malik et qu'on était en train de chercher des unités.
Erleichterung, dass wir wieder frei waren, dass kein Krieg ausgebrochen war.
On était libre de nouveau, il n'y avait pas eu de guerre.
West-Berlin hoffte,
la République fédérale avait été créée. Berlin-Ouest espérait devenir une partie de la République fédérale.
Das heißt, wir waren voller Hoffnung für die Zukunft.
Donc, il y avait un grand espoir quant à l'avenir.
Ich weiß,
Mr. Burgomaster, distinguished guests, and ladies and gentlemen, I asked Clay Reuter if I could stop by his office to say goodbye to him and through him to the people of Berlin.
Gerhard Berger, est-ce que c'est le pont aérien vraiment qui a changé la relation des Allemands avec, avec les Alliés?
L'exemple le plus connu à Tempelhof, c'est ce qui était écrit sur un grand tableau noir à l'attention des soldats américains pour leur conduite vis-à-vis des Allemands. Jusqu'au pont aérien, on stipulait « no fraternization ». Et après le blocus, le mot « fraternization » est resté. Mais les Américains ont également fait énormément de choses pour les jeunes à Berlin. Ils ont créé des clubs, ils ont amené la culture américaine, la musique, etc. Il y a eu un développement formidable de la vie culturelle. Nous faisions des queues immenses pour voir les films américains, britanniques et français. Après le pont aérien, la vie est peu à peu redevenue normale.
Das ist sie, die schwarz-weiße Schranke draußen an der Teltow-Kanalbrücke, die noch ungefähr 4 Stunden lang Berlin von den Westzonen trennt. Hier draußen werden Vorbereitungen getroffen, wie zu einem großen Fest. 4 Rundfunksender wollen original heute Nacht um Mitternacht Übertragungen von hier vornehmen und neue Schilder werden angebracht. Hier ist ja alles langsam etwas.
Alors là, on a des Américains, un pilote, une Allemande, une femme allemande, qui lui offre des chiots, une grande photo. Qui couvre tout le mur. Donc ça, c'est un peu la séquence de fraternisation.
Voilà, donc c'est un peu la séquence de fraternisation des Allemands qui remercient donc ici des pilotes, une femme donc qui amène
des
petits chiens à un pilote, une petite fille. Donc ce sont vraiment des photos qui ont fait aussi le tour du monde, qui amènent des bouquets de fleurs aux pilotes pour les remercier pour leur engagement pendant le pont aérien. Quand on a conçu ce musée, il y a eu donc des historiens de 4 pays autour d'une table avec leur perception de l'histoire et il fallait trouver un accord commun comment présenter cette page d'histoire donc ici avec bien sûr les objets qu'il faut toujours avoir pour faire une exposition.
Et vous êtes en train de m'expliquer que le plus petit dénominateur commun qui a été trouvé, c'est ce haut fait d'armes, c'est un peu cette épopée héroïque à constituer le pont aérien, pour le moment. Il y a eu beaucoup de débats.
Oui, bien sûr, il y a eu des débats. Il y a eu des débats sur le rôle des différents participants. Mais ici, au Musée des Alliés, je pense que dans quelques années, ça va, dans quelques dizaines d'années, ça va être encore vrai. Ici, au Musée des Alliés, on représente ou on parle vraiment de l'engagement des Alliés pour l'Allemagne. Et il est un peu difficile de mettre sous le même toit la version Est avec la version Ouest. Ça,
c'est pas possible.
Pour le moment, je pense que ce n'est pas possible.
Jeudi 30 octobre 2008, devant l'aéroport de Tempelhof. À l'intérieur, quelques centaines d'invités triés sur le volet assistent à la cérémonie de fermeture de l'aéroport. Dehors, des manifestants se sont rassemblés pour exprimer leur tristesse et leur colère vis-à-vis du maire de Berlin. Andreas Donati est le porte-parole du mouvement pro-Tempelhof, les irréductibles qui ont encore l'espoir d'organiser un nouveau référendum pour faire plier le Sénat.
L'association pro-Tempelhof, c'est une initiative de citoyens dont je fais partie. Et il y a aussi l'association Before Tempelhof. Tous ensemble, nous commençons aujourd'hui à rassembler des signatures des Berlinois. Et nous voulons atteindre les 20 000 signatures en un mois, afin de déclarer cette initiative à les directions administratives du Sénat. Et à partir de là, tout est encore possible, avec un nouveau référendum. Ici, ce soir, il y a de la douleur. Les Berlinois ont essayé de dire adieu à Tempelhof, pendant que M. Wowereit fête la mort de l'aéroport à l'intérieur, en compagnie de ses semblables. C'est une soirée de VIP. Alors que dehors, les Berlinois restent debout, sous la pluie, dans la tristesse. Les puissants font la fête, avec du saumon et du caviar. C'est un affront envers les Berlinois. Le maire n'a réagi d'aucune façon à cela. C'est triste et totalement indigne d'un maire de ne pas prendre en compte les avis différents exprimés par ses électeurs.
Et qu'est-ce qui va se passer si vous arrivez à rassembler les 20 000 signatures ?
Il y aura un référendum qui engagera le Sénat. C'est la grande différence avec le précédent référendum. Si nous gagnons, ça remplacera la décision du Sénat et l'aéroport ne pourra pas être fermé. C'est notre but, car même si Tempelhof n'est plus un aéroport pour les transports civils, ce n'est pas une raison pour le détruire et laisser les spéculateurs immobiliers s'emparer de ces terrains. Et cette opinion est d'ailleurs partagée par une majorité de Berlinois.
Enfant, Bernd Kvitt n'aurait jamais manqué les journées portes ouvertes de l'armée américaine installée dans l'aéroport. Dans les années 70, il a travaillé pendant 3 ans pour la Paname à Tempelhof, symbole à ses yeux du cosmopolitisme et de l'ouverture de Berlin-Ouest sur le monde. Bernd Kvitt ne se résout pas à la décision du Sénat et tente lui aussi de sauver son aéroport.
Wir hatten eine Volksabstimmung, ein Bürgerbegehren. 60% der Berliner haben sich für den Erhalt dieses Flughafens ausgesprochen.
Pendant le référendum, il y a 60% des Berlinois qui ont voté en faveur du maintien de l'aéroport.
Die Leute, die hier ringsherum wohnen, waren es ja zwischen 90% und 75%, die sich für den Flughafen Erhalt ausgesprochen haben.
Et pour les habitants du quartier Tempelhof, le pourcentage des votes qui en faveur du maintien, ça allait de 75 à 90%.
Die Leute, die unsere Nein-Stimmen, die wir hatten, die 40%, waren hauptsächlich aus den ehemaligen Ostbezirken.
Et ceux qui restaient, les 40% qui ont dit non, venaient en grande majorité des quartiers Est, de Berlin-Est.
Also, ich hätte gerne gewünscht, dass sie etwas mehr überlegen in Ost-Berlin. Aber
moi, j'aurais bien aimé qu'ils réfléchissent un peu plus à Berlin-Est.
Es ging wahrscheinlich darum, weil man ihnen den Palast der Republik abgerissen hat.
Mais c'est peut-être à cause du fait que à eux, on leur a détruit le palais de la République.
Man sollte nur überlegen, dass es auch der gleiche Bürgermeister ist, der sich intensiv dafür eingesetzt wird, dass dieses Gebäude abgerissen wird.
Et c'est le même sénateur en fait qui a décidé que ce bâtiment devait être détruit.
Und eigentlich nach dem Grundgesetz haben wir die Abstimmung gewonnen und daraufhin kam dann die Antwort von unserem Bürgermeister. Was die Bürger denken und handeln und abstimmen, das ist ihm alles scheißegal.
Et malgré le fait qu'on ait gagné, le sénateur avait déclaré de toute manière avant le référendum, moi je n'en ai rien à foutre du résultat de ce référendum. Tempelhof sera fermé.
Die Schließung ist total blödsinnig, dumm und vielleicht nur ideologisch erklärbar. Eine andere Erklärung gibt es hierfür nicht.
Alors cette fermeture est purement idéologique, il n'y a pas d'autre explication à cela.
Bonjour, c'est l'équipe de France Culture.
Arès Kalendides est urbaniste et fait partie d'un groupe d'experts régulièrement consultés par le Sénat pour donner son avis sur la dizaine de projets qui sont parvenus via les boîtes à idées lancées sur le net depuis plus d'un an.
Ce qui m'a surpris par contre, c'était la réaction du Sénat et du maire de Berlin, qui était à la fois défensive et un peu arrogante. C'était comme si les arguments des autres ne comptaient pas du tout, et défensifs parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment utilisé leurs très bons arguments, à mon avis, pour la fermeture.
Arès Kalendides, est-ce que selon vous, il y a un conflit de mémoire ?
Il y a toujours un conflit de mémoire quand on parle des lieux dans la ville, parce que vous savez qu'on a très souvent essayer de comparer la ville avec un palimpseste, donc une espèce de document où on rase toujours pour écrire, etc. Et n'oublions pas que l'Europe occidentale, après la Seconde Guerre mondiale, a été presque fondé sur quelques mythes de sa naissance. Un de ses mythes, c'est l'anticommunisme, c'est que les alliés américains, anglais, nous ont sauvés de cette force communiste qui était de l'autre côté du rideau. Tempelhof, comme bâtiment, n'a pas seulement été l'aéroport du pont aérien, c'était aussi à la fois le bâtiment, c'était l'aéroport des nazis. C'est un aéroport qui a été aussi utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a une architecture que je trouve très intéressante, mais qui est quand même très caractéristique aussi d'une architecture nazie. Donc, on a au moins deux histoires qui se contredisent. C'est l'histoire nazie et l'histoire de la guerre froide.
Quels sont les projets qui vous plaisent le plus, vous, en tant qu'urbaniste ?
Je parlais de ces différents éléments. Je parlais de ce grand terrain vide du milieu et des quartiers qui pourraient être construits dans la périphérie du quartier. Mais il y a un élément qui lie. On parle d'une espèce d'anneau. Ça va être un boulevard qui suit la piste qui existe en ce moment et qui va être une zone hybride entre les quartiers existants, la grande zone verte, et qui va aussi être la grande promenade, une espèce de grand boulevard piéton probablement. Et ça va être cela, le lien, ça va être le grand espace public qui lie les quartiers. Ça a une longueur de 6 km, plus ou moins, donc quelque chose qu'on pourrait faire dans une heure. Une promenade très intéressante où les trois quartiers pourraient se rencontrer. Ça pourrait être même une chance pour ce quartier tout autour. Justement, quelque chose qui vit tout à côté. Et si on arrive à les lier, on crée une connexion. Sinon, si on le voit comme une île au milieu de la ville, on crée une concurrence. Ce que je vois, c'est une ouverture. C'est un bâtiment qui est en fait fermé au public, ou tout un terrain fermé au public, et on est en train de l'ouvrir. Donc moi, j'aurais fêté l'ouverture, pas la fermeture. Je ne comprends pas du tout vos verrailles, parfois.
Pourquoi si tôt ? Il n'y a encore aucun concept pour l'utilisation ultérieure de l'aéroport. Pourquoi est-ce qu'il devrait être fermé aujourd'hui ? C'est inconcevable d'être aussi borné et de maintenir la fermeture au 30 octobre 2008. C'est typiquement allemand. Ça s'appelle la dictature dans la démocratie. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? L'âme berlinoise bouillonne dans ces moments-là.
Dernier tour de piste pour l'aéroport de Tempelhof. Prise de son, Pierre Quintard, Michel Mestre, Philippe Jurado. Traduction, Bibiane Rammerstorfer, Aurélie Denoyer, Vincent von Wroblowski, Dominique Treillou. Avec les voix de Marie Capucine Dis, Éric Erso-Macarel, Jean-Louis Etchemendi. Mixage, Michel Kreis. Un documentaire proposé par Dominique Treillou et réalisé par Marie-Christine Closet. Cette émission a été diffusée la première fois le 16 décembre 2008 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. It was very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. We were in. Could hear the guitars play. It was very nice. Oh, honey, it was paradise.